Chapitre 15. Demandes inconsidérées. Calendrier organique en 589. Année terrestre 3416. Et voilà, le matin du troisième et dernier jour est arrivé. Dans quelques heures, je serai séparé de Foudre, de l'organe et de ma vie. Philippe Reda répondit à l'instant. « Ne pourriez-vous essayer de vous enfuir, comme Touré ?»« Si je m'enfuis, qui essaiera de plaider la cause de l'organe auprès du capitaine ? Je suis obligé de remonter là-haut. Il faut que je lui parle, que j'essaye au moins de le dissuader. » « Avez-vous déjà réussi à convaincre le capitaine ?»« Non, jamais. » »« Vous feriez mieux de vous enfuir. » Strauss, je vous le demande, instamment, sauvez-vous, ne remontez pas dans le vaisseau. Cela me fait presque aussi mal qu'à vous. Michael sourit tristement en lisant les mots sur son transmetteur. Cela vous ferait encore plus de mal si je m'enfuyais et s'il me pendait. Je ne vivrai pas pour voir ça, alors que je vais devoir vivre pour voir votre retour à bord de la sonde. Je dois vous quitter maintenant, Philippe. On m'attend pour les grands pourparlers. À tout à l'heure. Bonne chance, Strauss. Enfuyez-vous, si vous le pouvez. Foudre n'avait montré aucun signe d'impatience, mais il voyait qu'elle était prête. Ils prirent le chemin de la ville en silence. La veille, il lui avait parlé de Reda, et elle avait immédiatement compris son sentiment de responsabilité vis-à-vis de cet homme. « Tu es liée à lui », avait-elle dit simplement. Il ne l'avait pas détrompée. La souffrance de Philippe Reda ne résonnait pas dans sa chair, mais elle était présente à son esprit. Le jour d'avant s'était écoulé sans accroc, et Michael avait beaucoup appris sur la culture de l'organe. Subrepticement, il avait photographié une partie du journal du Covadis, dont il comptait poursuivre la lecture lorsqu'il serait sur la sonde. Il avait également accompagné Foudre dans sa tournée de soins et de conseils, admirant sa faculté à prendre des décisions autant qu'à écouter les autres. Elle était médecin, mère, juge et administratrice. Elle tranchait sans cesse dans des choix difficiles, avec un seul principe, celui de ne jamais sacrifier l'un à l'autre. Il ne pouvait y avoir de bouc émissaire, il ne pouvait y avoir d'exclusion ou de haine, car l'exclu souffrait dans sa propre chair. Elle maintenait donc, parfois à bout de bras, l'harmonie de tous, respectant les logiques individuelles jusqu'à ce que cela devienne vraiment impossible, ce qui était rarement le cas. Les solutions qu'elle trouvait étaient imaginatives et inattendues, du moins pour lui. Il la vit punir une femme qui maltraitait son enfant en la plaçant à la place de la victime. Les membres présents du clan furent accusés de l'avoir ignorée, de lui avoir imposé une trop lourde charge, de l'avoir laissé se débattre avec son enfant dans une situation impossible. L'enfant fut placé sous le contrôle de la famille élargie, et la femme pleura de reconnaissance et de honte. Nul ne l'avait blâmée, on la soulageait seulement d'une charge trop lourde. Une fois rentrés à la demeure de Foudre, ils avaient échangé caresses et baisers une grande partie de la nuit, saisis par l'urgence. Mais Michael savait que Foudre ne pleurerait pas au moment de le quitter, et qu'elle enfouirait dans sa mémoire les moments passés avec lui, sans que ceux-ci rejaillissent le moins du monde sur son comportement social. Il n'espérait pas un seul instant qu'elle se placerait de son côté au conseil des clés, pour recommander de laisser l'équipage de la sonde emporter le vaisseau. Elle s'opposerait à lui, aussi farouchement que les autres, et Michael le comprenait parfaitement, car c'était une décision injuste, que lui-même n'approuvait pas, et qu'il se voyait contraint de défendre par le jeu des obligations hiérarchiques. Le seul aiguillon qui pouvait le pousser à négocier sincèrement était la peur des représailles de Richard sur les autochtones. Il espérait que ces derniers s'inclineraient devant la force et ne tenteraient pas d'action désespérée. La beauté indifférente de la forêt ne suffit pas à apaiser ses inquiétudes. « Ne pleut-il donc jamais sur l'organe ?»« Mais si !» répondit Foudre en riant. « Comment crois-tu que la forêt pourrait être si verte s'il ne pleuvait pas ?» Comment est-ce, la pluie ? Il faudrait que tu reviennes plus longtemps pour la voir, Michael Strauss. 3 jours ne suffisent pas à cette saison, et la seule pluie que tu vas voir aujourd'hui ne sera ni belle ni commode à ton égard. Michael eut un petit rire triste. « Je m'en doute. J'en frémis déjà. »« N'aie pas peur, va. Le conseil n'est pas un espace d'agressivité. Du moins, l'agressivité y est tellement canalisée qu'elle n'est pas dangereuse. Qui prendra la décision finale ?»«
Toutes nos décisions sont prises par consensus, » expliqua Foudre. « Vous n'avez jamais de désaccord profond entre le noir et le blanc, jamais d'opposition frontale qui empêche tout consensus. Le monde n'est pas noir et blanc, les situations ne sont pas noires et blanches. L'opposition frontale est une invention de l'Occident ctérien.
Que veux-tu dire? Qu'à un problème donné, il existe toujours plus d'une seule alternative.
Accepter ou refuser, n'est-ce pas une alternative simple qui correspond à la question que je vais poser?
Tu ne vas pas poser de questions comme celle-ci. Tu vas exposer une situation complexe en n'omettant rien de sa complexité. Et nous définirons une attitude complexe qui nous semblera la plus appropriée à cette situation.
Michael médita ces paroles, dont la sagesse pour l'instant lui échappait. « Parfois, dit Foudre d'un ton énigmatique, il suffit de supprimer la question pour éviter d'avoir à y répondre. »
Les arbres commençaient à se clairsemer et ils pénétrèrent bientôt dans la ville. Michael prit beaucoup de photographies et de vidéos sous l'œil amusé de Foudre.
« Tu es un drôle de touriste, » se moqua-t-elle. « Est-ce que tout le peuple de l'Union se considère ainsi, comme un ensemble de touristes en voyage ?»«
En général, nos destinations ne sont guère touristiques. Je n'avais jamais marché sur un objet naturellement entouré d'une atmosphère respirable. »
Foudre eut un air compatissant et n'ajouta rien. Lorsqu'ils arrivèrent devant la salle du conseil, Michael sortit à nouveau son appareil photo et prit de nombreuses images du lieu. Cette terrasse qui dominait la ville offrait une très belle vue sur le vaisseau qu'il avait visité la veille. La présence de cette noble épave, que deux communautés diamétralement opposées allaient se disputer 500 ans après son échouage, semblait pleine de sens. Du côté intérieur, le vaste espace ombragé par une voûte végétale avait la majesté des colonnades antiques, sauf qu'il ne s'agissait pas de colonnes de bois, comme il l'avait cru au premier abord, mais d'arbres vivants et sculptés, d'une hauteur immense, parmi lesquels Michael vit des centaines de clés, dont beaucoup le dévisageaient discrètement, déambulaient tranquillement. Il glissa à Foudre. « Si nous devenons ennemis, n'oublie pas que je suis tout à fait stupide et que cela ne m'empêchera pas de t'aimer. » « Je chérirai ton souvenir, » répondit Foudre. Cette phrase sonna de manière étrange aux oreilles de Michael, comme si elle envisageait qu'il pût mourir. Il voulut continuer à lui parler, mais le moment était passé. Une foule se pressait autour d'eux. Foudre saluait presque tout le monde et s'écarta un moment avec pluie. Michael se sentait pris d'une sorte de vertige. Les clés, qui étaient jusqu'à présent des personnages très abstraits dans son esprit, venait de s'incarner dans un réel qui le cernait de toutes parts. La bulle qui les entourait, lui et Foudre, depuis 2 jours, venait de crever. Le rythme du réel, soudain accéléré, le reprenait dans ses rapides. La sonde, au-dessus du couvadis, bien visible quand on levait la tête, faisait peser une menace muette. Et Michael crut même apercevoir le lieutenant Malkin derrière une colonne. Cette impression se confirma bientôt.
« Major Strauss, dit-il, j'ai besoin de vous parler avant le début de cette mascarade. »
Michael suivit Malkin à contresens des clés qui se pressaient vers l'intérieur, et ils atteignirent le bord de la terrasse.
« J'ai retrouvé Touré, dit-il, mais le chef du clan où elle s'est réfugiée m'a dit de m'adresser ici. Comme j'ai peur de perdre mon sang-froid plus rapidement que vous, je souhaiterais que vous fassiez entrer cet élément dans la négociation. » La collaboration pour la réparation et la restitution du vaisseau n'est que l'une de nos 2 revendications. La seconde est qu'ils acceptent de nous restituer Touré, sur le champ. Je souhaite la remonter avec nous tout à l'heure.
Michael resta silencieux un moment de trop. Le retour au réel avait été trop brutal. Habitué à converser uniquement avec Foudre et avec Reda depuis 2 jours, il avait perdu l'habitude des conversations hiérarchiques dans lesquelles il fallait savoir se taire, mentir et réfléchir à toute vitesse pour éviter les pièges que les mots pouvaient tendre.
« Eh bien, Strauss, vous ne répondez rien? Êtes-vous devenu idiot ?»«
Pardon, mon lieutenant. En vérité, la négociation va déjà être extrêmement tendue à propos du vaisseau. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée d'ajouter un second point de désaccord dans la balance. » Le lieutenant le considéra avec mépris. « J'ignorais que le capitaine Richards vous avait mandaté pour me donner des conseils, major. Il ne me semble pas vous en avoir demandé, pour ma part. » « Non, mon lieutenant. En effet, je ne faisais que vous donner mon éclairage. » « Je connais déjà votre éclairage, major. Vous estimez sans doute que les autochtones sont attachés à ce vaisseau échoué et qu'il est illégitime de notre part de nous en saisir. Et vous estimez très certainement que l'enseigne Touré devrait être laissé à sa nouvelle famille sans subir la moindre conséquence de sa désertion. » Michael ne savait que répondre. Il n'avait pas envie de démentir le lieutenant. « Vous voyez, Strauss, je vous connais par cœur. » Heureusement, vous avez un grade suffisamment bas pour que ces idées stupides restent de peu de conséquences. Vous ferez donc ce que je vous dis, non pas par esprit de discipline, car vous en êtes tristement dépourvu, mais parce que vous êtes suffisamment intelligent pour comprendre le sens d'une menace directe. Si je n'obtiens pas satisfaction pour mes deux revendications, il nous faudra prendre ce que nous voulons par la force, et vos amis tatoués ne seront pas capables de nous en empêcher. Vous voyez, la sonde est juste là. Je vous attendrai ici. » Michael jeta un regard vers le ciel. Jamais son vaisseau ne lui avait paru si sinistre. « À vos ordres, lieutenant, » finit-il par dire. Puis il fit un salut militaire et prit la direction du conseil. Les clés s'étaient réparties un peu partout. Certaines sur les sièges de bois, certaines adossées contre les arbres, d'autres assises en tailleur par terre. D'autres enfin restaient debout. Michael chercha Foudre des yeux, mais ne la trouva pas tout de suite. Pluie, quand il arriva, lui fit signe de s'avancer, et il la rejoignit, le cœur étreint par une angoisse galopante. « Mes chers amis, » dit Pluie, « vous savez que ce conseil des clés est un conseil extraordinaire, et nous ne traiterons pas aujourd'hui des affaires courantes de l'organe. Nous allons écouter ce que le major Michael Strauss, qui a été désigné par ses maîtres, pour leur servir d'intermédiaire auprès de nous, a à nous dire. Puis, nous discuterons afin de savoir quelle réponse nous enverrons à ses maîtres, toujours par son intermédiaire. Nous allons lui laisser la parole, puis vous pourrez tous lui poser toutes les questions que vous voulez, afin que notre délibération puisse se faire en toute connaissance de cause. Enfin, nous inviterons le jeune homme à quitter les lieux pour attendre notre réponse. » Michael prit une profonde inspiration et se mit à débiter le petit discours qu'il avait appris par cœur. Foudre lui avait conseillé d'exposer les faits dans toute leur complexité. Le vaisseau que vous avez tous vu dans le ciel et qui s'appelle la sonde est un bijou technologique qui permet à notre équipage de voyager à travers d'immenses distances. Nous sommes des pionniers pour l'Union qui représente ce qui reste de la Terre. Une diaspora humaine d'environ 1 million de personnes. Nous ne savons pas exactement ce qu'a donné dans l'univers le grand essaimage. À ce jour, vous êtes seulement la 5e colonie humaine que nous avons retrouvée. L'Union souhaite évidemment représenter une passerelle entre toutes les communautés humaines et considère naturellement que votre colonie se rattache à elle d'une manière ou d'une autre. Nous partageons l'ADN, la langue, l'histoire. Cela n'est pas rien. Et cela suffit sans doute pour justifier un échange régulier, un commerce permanent, aussi bien culturel qu'économique, entre nous. J'ai parlé de commerce, car cela semble la chose la plus pacifique et la plus naturelle pour décrire les relations que l'organe et la sonde pourraient entretenir. Vous possédez sur l'organe des richesses merveilleuses pour nous autres, humains de l'Union. Vous possédez de l'air, de l'eau, du carbone, du bois et 1000 autres minerais et ressources naturelles à profusion. Vous possédez une chose rarissime dans l'univers, une planète habitable, capable de servir d'abri à l'humanité tout entière si elle venait à en avoir besoin. Mieux encore, ces ressources sont largement inexploitées et leur exploitation éventuelle ne vous dérangerait quasiment pas. Mais nous ne sommes pas non plus dépourvus de richesses pour vous, et notamment de richesses intellectuelles. Nous maîtrisons des savoirs, des techniques, qui dépassent très largement ceux de vos ancêtres, car nous avons sans cesse innové et développé de nouvelles capacités grâce à nos voyages spatiaux pendant ces 5 siècles. Nous avons le pouvoir de guérir, le pouvoir de voler, le pouvoir de franchir les montagnes et les mers, le pouvoir de construire. Nous avons aussi, évidemment, le pouvoir de détruire. Mais tous ces pouvoirs pourraient vous appartenir. Nous sommes prêts à rester suffisamment longtemps sur l'organe pour vous former. Nous sommes prêts à vous donner des machines, à vous en expliquer le fonctionnement et les secrets de leur fabrication. La bonne entente avec l'Union garantirait également votre paix. À l'heure qu'il est, un message est certainement déjà parti vers l'Amirauté, qui est le pouvoir central de l'Union, et les coordonnées de l'organe ne sont plus secrètes. D'autres humains viendront, même s'ils doivent mettre beaucoup de temps à venir. Le temps où vous étiez séparés de l'Union par la barrière infranchissable du secret est déjà révolu. Vous avez donc tout intérêt à nouer avec la sonde des relations équitables, de profit mutuel. J'en viens aux deux points qui constituent la partie délicate de notre négociation. Le capitaine Richards, qui dirige la sonde, souhaite que vous fassiez deux gestes afin de montrer votre bonne volonté. Ce sont deux gestes qui ne vous coûteraient pas grand-chose, car ils ne mettent en péril la vie d'aucun habitant natif de l'organe et qu'ils ne mettent pas non plus en péril votre mode de vie et vos principes solidaires. Il s'agirait tout d'abord de nous laisser ramener à bord de la sonde la jeune femme qui s'est perdue sur l'organe et qui a trouvé refuge dans l'un de vos clans. Il s'agit ensuite de laisser nos ingénieurs, pas l'ingénieur Ido bien sûr qui a prouvé son irrespect, mais d'autres, pénétrer dans le Quo Vadis et essayer de le réparer. Ce vaisseau, je l'ai compris, représente beaucoup pour vous, mais nous pourrions fort bien vous laisser tout ce qui se trouve à votre disposition, et notamment tout le contenu de la bibliothèque. Nous nous contenterions, si nous parvenions à réparer le vaisseau et à le faire décoller, d'emmener sa structure principale. Nous pourrions même sans doute vous fournir une réplique du Quo Vadis afin de vous laisser un objet de mémoire. » Michael se tut, et des murmures graves, inquiets, parcoururent l'assemblée. Foudre posa la première question, peut-être parce qu'elle avait eu le temps d'y songer depuis deux jours et qu'elle brûlait de la lui poser depuis longtemps. Le capitaine Egon Richards est-il disposé à utiliser la force contre les habitants de l'organe en cas de refus de notre part ? Oui, je le crains, dit Michael sans se dérober. Foudre insista. Pour le vaisseau, mais aussi pour la jeune femme qui a trouvé refuge dans le clan de l'orage. Oui. Michael s'était attendu à une levée de boucliers, des protestations, mais il n'en fut rien. Il y eut un grand, un long silence, puis des clés qui lui étaient inconnues se mirent à lui poser des questions, presque avec douceur. « Votre technologie vous sert-elle à procréer, ou procréez-vous toujours de manière naturelle ?»« De manière naturelle, la plupart du temps. » »« Vous avez dit qu'il y avait environ 1 million d'humains dans l'Union. Est-ce que cela comprend les 4 colonies que vous avez trouvées ?» Oui, ce sont des colonies moins importantes que celles de l'organe. Y a-t-il des enfants à bord de la sonde ? Non, la procréation est interdite pendant les voyages spatiaux militaires. Michael crut ressentir un imperceptible soulagement dans l'assemblée, qu'il ne comprit pas. Combien de passagers y a-t-il à bord de la sonde ? Nous formons un équipage de 169 personnes. Là encore, le silence se prolongea. Michael avait l'impression qu'ils étaient conscients qu'ils n'auraient pas d'autre occasion de poser leurs questions et qu'ils ne voulaient rien oublier. Ils s'étaient attendus à de l'émotion, à de l'agressivité, à de la révolte, et ils devaient faire face à des questions calmes et posées. « À combien d'années-lumière nous trouvons-nous de l'amirauté ?»« Environ 1,8. »« C'est le temps que mettra le message pour parvenir là-bas. »« Oui. » À quelle vitesse se déplacent vos vaisseaux ? Nous atteignons le 10e de cette vitesse. Foudre reprit la parole. Major Michael Strauss, à titre personnel, aimeriez-vous vivre sur l'organe ?
Oui.
Avez-vous impérieusement besoin du Quo Vadis pour votre survie ?
Non, pas vraiment. Nous ne sommes pas en danger actuellement ni en pénurie de ressources.
Un vieil homme couvert de tatouages demanda d'une voix claire. « La fugitive que vous recherchez, quel sort allez-vous lui faire subir ?»«
Elle sera jugée pour désertion par une cour martiale.
Et quel risque cela lui fait-il encourir ?»«
La peine capitale, je le crains. » »«
Pouvez-vous être plus explicite ?»«
La mort par pendaison. » »«
Y a-t-il... d'autres formes d'intelligence dans l'univers ?
Sans doute, mais nous ne les avons pas trouvés.
Le but de l'Union est-il de s'installer sur une planète habitable comme l'Organe ?
Je ne sais pas, je ne crois pas.
Pourquoi ?
Ne put s'empêcher de demander une jeune clé.
Parce que l'Union rayonne, explore, sillonne l'univers. Cette quête est ce qui maintient son unité. Vous ne me posez pas de questions sur les technologies que nous pourrions vous apporter ?
Personne ne répondit.
Combien de temps la réparation du Covadis pourrait-elle durer ?
Demanda un homme assez âgé.
De 2 à 6 mois. Y a-t-il des ressources précieuses derrière les portes scellées ?
Oui, précieuses pour une civilisation technologique.
Que vous permettrait-elle de faire ?
De l'énergie, principalement, et peut-être des matériaux de construction et d'équipement.
Michael se rendait compte que les questions s'espaçaient et allaient bientôt se tarir. Aucune de ces questions ne lui paraissait essentielle, ni pertinente. Il n'avait rien demandé sur la puissance de feu de la sonde, sur ses capacités de coercition, il n'avait rien demandé sur les avantages technologiques que l'Union leur proposait. Il n'avait rien demandé du tout. Lorsque le silence eut duré assez longtemps, Pluie demanda. « Y a-t-il des points que nous aurions oublié d'aborder ?»
Des voix se parlèrent, se répondirent, puis se turent.
« Bien, » reprit Pluie. « Dans ce cas, Major Michael Strauss, je vous invite à rejoindre vos amis de la sonde à l'extérieur et d'attendre le résultat de notre délibération. »
Michael s'inclina et lança à Foudre un regard presque désespéré. Elle lui sourit, un peu tristement, puis il se dirigea vers ceux qui n'étaient pas du tout ses amis.
« C'est déjà terminé ?» demanda Malkin.
« Non, ils délibèrent. »
« Et votre impression, Strauss ? Comment les négociations se sont-elles passées ? Obtiendrons-nous leur accord ?»«
Je ne sais pas, lieutenant. J'ai exposé la situation et nos desiderata. Je leur ai fait comprendre qu'ils avaient tout intérêt à trouver un accord profitable pour les deux parties. » Et que le capitaine Richards n'hésiterait pas à employer la force en cas de refus.
Ont-ils beaucoup protesté ?
Non, c'est ce que je trouve étrange. Ils n'ont pas protesté du tout.
Ce sont des primitifs, Strauss. Ils ne se rendent même pas compte de la puissance de feu de la sonde. Ils pensent peut-être que nous allons nous battre tous à main nue.
Peut-être. Fort heureusement, le lieutenant n'était pas d'humeur à prolonger cette conversation, et Michael, après avoir brièvement salué Wilson et Fabre, put s'éloigner promptement. Il avait envie de parler à quelqu'un, cependant, et sortit son transmetteur pour joindre Reda. « J'ai porté le message de menace et de mort de la part de la sonde. »
« Et qu'ont-ils répondu ?»«
Ils ont demandé s'il y avait des enfants à bord. » Cette fois, Reda ne répondit pas, et Michael guetta un long moment son interprétation, en vain. La délibération, cependant, ne fut pas très longue, et moins d'une heure après sa sortie de la salle, Michael fut rappelé. Il vit que Pluie tenait à la main un papier, sur lequel était écrit un court texte.
« Installez-vous, Major Michael Strauss. Je vais vous faire lecture de ce papier. Si vous avez des questions à nous poser, vous pourrez nous les poser, puis vous rapporterez cette réponse, là-haut. » Michael acquiesça silencieusement. Le Conseil des Clés a décidé, par consensus démocratique, de répondre ainsi aux exigences exprimées par le Major Michael Strauss au nom du capitaine de la sonde. Concernant Michel, qui appartient désormais au clan de l'Orage et qui a pris le nom organique de Forêt, elle a, par la cérémonie de l'aiguille, abandonné sa communauté d'origine et épousé le clan de l'Orage. Il nous est impossible de l'exposer volontairement à une souffrance, ni de lui faire violence. Il nous est impossible de vous laisser l'emmener contre son gré. Concernant le Covadis, nous y sommes très attachés et ne comprenons pas la nécessité de le réparer ni de l'arracher du sol. Nous ne souhaitons en effet bénéficier d'aucune avancée technologique que vous nous apporteriez artificiellement. Nous comprenons néanmoins l'intérêt que nous pourrions avoir à coopérer avec l'Union. Nous concédons à l'Union 1/10 du territoire de l'Organe aux antipodes de notre foyer de peuplement pour une libre exploitation. Nous proposons également à tous les membres de l'équipage qui le souhaitent de venir rejoindre l'un de nos clans afin de profiter de la beauté et de la fertilité de notre chère planète. En gage de votre bonne volonté, et pour sceller ce pacte de bonne entente, nous demandons au capitaine Egon Richards de bien vouloir nous laisser à demeure le major Michael Strauss et de le délier de ses fonctions et autres engagements auprès de l'Union. Nous espérons recevoir une réponse favorable d'ici à l'aube prochaine. Dans le cas contraire, nous prendrons certaines dispositions à votre encontre.